Par ailleurs, on va parler aussi d'histoire en revenant un peu plus près de nous et des Jeux paralympiques. Et j'ai en ma compagnie Mme Christiane Campagna qui va nous faire le pourquoi et l'origine des Jeux paralympiques. Bonjour Christiane.
Bonjour François. Oui, c'est ça, je vais vous parler de celui qu'on pourrait surnommer le Pierre de Coubertin des Jeux paralympiques, un neurochirurgien britannique d'origine allemande qui s'appelait le docteur Ludwig Gutmann.
Oui, Gutmann, ça fait origine allemande, c'est sûr. Ludwig.
Oui, il est né d'une famille juive orthodoxe à Tost, une ville qui est aujourd'hui en Pologne, en 1899. Il est reçu médecin en 1924 et est rapidement reconnu là, comme un grand neurochirurgien en Allemagne. Sauf que, bon, face à la persécution des Juifs par les nazis, il quitte pour la Grande-Bretagne avec sa femme et ses enfants en 1939. Il s'installe à Oxford, comme plusieurs autres chercheurs et universitaires juifs là, qui fuyaient à l'époque la menace nazie. En 1944, le gouvernement britannique lui demande de créer un centre national pour les blessés à la moelle épinière. Ça se situe à Stoke Mandeville. Et ses collègues, bon, d'autres éminents médecins, trouvaient ça un peu bizarre de sa part là, de quitter Oxford pour se consacrer à s'occuper de patients dont on s'occupait peu à l'époque, qu'on considérait bon,
plus très utiles. Les maladies médulaires étaient pas vraiment soignées. Là. Ils étaient... c'était pas connu, puis les gens étaient parqués là, essentiellement comme des membres qui ne seraient plus utiles à la société.
Voilà. Mais dès le début de sa pratique, il croit aux vertus de la réhabilitation physique et psychologique par le sport pour ses patients. Alors, et dans ce sens-là, c'est vraiment un pionnier. Il a mis au point une thérapie basée donc, sur le sport avec du tennis de table, du billard, du basketball, du tir à l'arc. Et il a vite pu remarquer là, des progrès en termes de force, de confiance et d'estime de soi aussi. Et la plupart de ses patients pouvaient retourner chez eux, trouver un emploi, contrairement à ceux qui n'avaient pas suivi ce genre de thérapie.
On peut penser que c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il devait y avoir une assez large part de ses patients qui étaient des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui étaient quand même assez vigoureux ou dans la force de l'âge, qui avaient été blessés pendant la guerre.
Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi là, il décide de s'engager là, pour permettre, bon, on parle au départ à des personnes paraplégiques et tétraplégiques, d'accéder au sport à tous les niveaux. Et ça, ben, ça passait par l'adaptation des pratiques et des règles. Et le 28 juillet 1948, en même temps qu'à Londres s'ouvraient les Jeux olympiques, il a décidé d'organiser une compétition de tir à l'arc pour 14 athlètes, 12 hommes et 2 femmes. Et c'est au fond ce qu'on pourrait appeler le début des Jeux paralympiques.
La première compétition paralympique ou de sport adapté, parce que ça, je suppose, c'était du tir à l'arc en fauteuil.
Oui, il les appelait les Jeux paraplégiques.
Ah, OK, paraplégique.
Oui.
D'accord. Oh, ben, c'est sûr que ça allait évoluer, mais l'intention était bonne. Puis que ce soit le même jour que l'ouverture des Jeux olympiques à Londres, ça a dû quand même donner un peu un coup dans les médias.
Oui, mais pendant longtemps, les Jeux vont se tenir en même temps, mais ailleurs. Les Jeux de Stoke Mandeville, comme on va les appeler longtemps, ont lieu chaque année, croissent sans cesse, le nombre de compétiteurs augmente. En 1960, en même temps que les Jeux olympiques de Rome, l'événement prend le nom d'International Stoke Mandeville Games et passe sous la responsabilité de la Fédération mondiale des anciens combattants. Donc là, on peut commencer vraiment à parler de quelque chose qui ressemble vraiment aux Jeux paralympiques. En 1968, tiens, le Canada participe à ses premiers Jeux à Tel Aviv, en Israël, avec 25 athlètes, mais encore à ce moment-là, on ne parle que de personnes qui ont un handicap moteur, en fait. On parle encore vraiment principalement de lésions médulaires.
Et là, à ce moment-là, les Jeux paralympiques ne sont plus dans la ville haute, parce qu'en 1968, les Jeux olympiques étaient à Mexico.
Oui, voilà. Donc, ils ont lieu, au lieu d'être décalés comme maintenant, ils ont lieu en même temps, mais ailleurs. Par exemple, en 1976, qui est la première année où on élargit à d'autres formes de handicap, notamment des handicaps visuels et des personnes qui ont eu des amputations. En 1976, les Jeux, qui ne s'appellent pas encore paralympiques, ont lieu à Toronto, alors que les Jeux olympiques ont lieu à Montréal.
Oui, ça, franchement, je ne me souviens pas d'en avoir entendu parler en 1976.
Et c'est la même année où on organise les tout premiers Jeux paralympiques d'hiver à Örnsköldsvik, en Suède, avec deux sports au programme de la compétition, le ski alpin et le ski de fond. C'est en 1984 que le terme « Jeux paralympiques » est officiellement utilisé et validé par le CIO. Et c'est en 1988, pour la première fois, que les Jeux paralympiques ont lieu sur les mêmes sites que les Jeux olympiques, soit à Séoul, en Corée.
Et à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'il y a l'utilisation des infrastructures qui sont mises en place, mais il y a aussi un petit pas vers le fait de reconnaître que les athlètes paralympiques sont des athlètes à part entière, qu'ils ont droit à des installations de la même qualité et dans une ville haute qui est la même que celle des Jeux olympiques.
Oui, par contre, deux semaines après, de plus en plus remis en question.
Exact.
Maintenant, on préférait que ce soit avant. Il y a comme une montée vers les Jeux olympiques sur le plan médiatique, sur le plan de la hâte des gens. Et avoir lieu quand ça a lieu deux semaines après qu'on ait assisté à la télé à une cérémonie de clôture.
Qui est spectaculaire, qui nous amène à au prochain cycle olympique. Ça fait un peu comme « Ah oui, mais il y a aussi les Paralympiques la semaine prochaine. »
Voilà. Alors, on a même été la flamme à la fin des Jeux, tout ça. Et je me souviens que l'ancien athlète paralympique, Benoît Huot, a dit avant, parce que c'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait pendant, mais avec les nombreuses catégories, c'est les lieux, en fait.
La logistique, comment
c'est la logistique qui serait difficile, mais avant, ça jouerait ce rôle. Vous savez, quand vous allez à un concert et qu'il y a une première partie,
oui,
vous découvrez
souvent...
Ce qu'on
appelle la vedette américaine.
En France, c'est comme ça qu'on les appelle. Cette première partie vous permet souvent de découvrir des artistes que vous ne connaissiez pas. Mais est-ce que si la première partie, cet artiste moins connu, était présenté après l'artiste principal,
ça
fonctionnerait pas? Alors peut-être qu'en les mettant avant, là, on pourrait attirer davantage l'attention.
Oui, ça ferait partie du crescendo olympique. Mais le Dr Goodman, qu'est-ce qu'il en est advenu finalement?
Ben, il a reçu de nombreuses distinctions. Il est devenu Sir Ludwig Goodman en 1966. Il est décédé en octobre 1980. Et aujourd'hui, une statue est érigée en son honneur près du stade et du National Center for Disability Sports à Stoke Mandeville, où tout a commencé.
Ah, quelle belle histoire! Voilà, encore un pionnier. Ben, je vous remercie, Mme Campagna.
Je vous en prie.
On se reparle à la fin pour notre revue de presse.
Oui, tout à fait.
Au plaisir. On se retrouve après la pause. On va parler de Parkinson.